Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans votre émission, votre espace d'expression sur l'actualité. Bienvenue dans le journal des auditeurs. Aujourd'hui, mardi, dans le JDA, je vous propose de faire le point sur la pandémie de Covid-19. Plus de 11 millions de personnes sont contaminées de par le monde, mais selon des spécialistes, la pandémie n'a pas encore atteint son pic sur le continent africain. Pourtant, les mesures de confinement, de restrictions de déplacement sont levées ici et là. Elles sont parfois réintroduites. C'est le cas à Madagascar, face à la recrudescence des cas du nouveau coronavirus. La capitale, Tana, a été replacée en confinement. Alors, qu'en pensez-vous ? Faut-il demeurer vigilant autour de l'épidémie ? Puis surtout, cette question, a-t-on déconfiné trop tôt ? Pour participer, composez le 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Mais d'abord, sans plus tarder, nous nous tournons vers le répondeur d'Africa Radio pour écouter quelques-uns de vos messages.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour Stéphanie. Bonjour Dr. Africa Radio. Bonjour l'Afrique. Je regarde ce JDA d'aujourd'hui. Moi, je voulais intervenir. Bon, on n'a pas eu le temps, mais sauf que le FCC et le CAS de Félix Tshisekedi sont en coalition. Cette coalition est due à quoi ? À un complot. Ça a été créé par un complot, donc il y a une complicité entre Félix Tshisekedi et son camp et le FCC. C'est-à-dire qu'ils ont fait échouer Martin Fayoulou pour mettre Félix Tshisekedi à la tête de cet État, et après, à la suite, qu'il récupère le pouvoir. Donc le pouvoir sortant, c'est Joseph Kabila. Donc les mêmes personnes, la même CENI qui a donné la victoire à Félix Tshisekedi, c'est la même CENI qui veut reprendre les choses en main, en fait, en redonnant le pouvoir à Joseph Kabila.
Oui, cher admis du JDA et Madame Hartmann, bonjour. Je me permets d'intervenir par rapport à l'émission qui concerne la CENI en RDC. Mon point de vue serait celui-ci. Je pense que M. Ronsard Malanda, sa candidature va poser beaucoup de problèmes. Et puis, je garde bon espoir que la dernière décision appartient au président de la République. Celui-ci fera ce qui est bon pour le Congo. Je pense que sa candidature ne passera pas parce que ce monsieur, c'est la continuité de l'ancien président de la CENI et c'est la continuité de Kabila et les FCC. Voici ma modeste contribution pour cette cause. À très bientôt. Que Dieu bénisse tout le monde. Ciao, ciao. Dieu donné Kassongo. Merci encore. À très bientôt. Ciao.
Puis, bonjour Africa. J'ai appelé par rapport au sujet d'hier sur le choix de M. Malonda à la CENI. En fait, c'est un choix qui est un peu piégeux en fait, pour l'opposition et surtout pour les soi-disant confessions religieuses. En fait, il faut savoir que M. Malonda est originaire du sud-ouest du Congo, donc de Né-Congo, comme on dit, et on veut lui faire passer comme étant un adepte de kimbanguiste, puisque le kimbanguisme est d'origine du Bas-Congo, justement. Comme, étant donné, les catholiques ont eu parce qu'au Congo, il faut savoir que la première personne de la CENI est forcément de confession religieuse. Donc, on a eu, les catholiques ont donné l'abbé Malou Malou, les protestants ont donné Ngoy Mulunda, et les églises évangéliques ont donné donc Nanga. Maintenant, il était tour soit des musulmans, soit des églises animistes ou des églises traditionnelles, donc les kimbanguismes. Et malheureusement, M. Malonda est certes originaire de Bas-Congo, mais il n'est pas kimbanguiste. Donc c'est ça qu'il faut retenir.
Bonjour Madame Hartmann, bonjour chers auditeurs et auditrices d'Africa Radio. J'appelle aujourd'hui concernant le Mali. Pour les revendications des soi-disant politiciens, opposition. Tout le monde sait que la revendication des oppositions, c'est une revendication anticonstitutionnelle. Quand on fait une revendication, il faut faire une revendication républicaine et responsable. Donc on ne peut pas dépouiller un président qui a été élu démocratiquement de ses pouvoirs. Tout le monde sait ça. Ils sont en train de préparer un coup d'État qui ne veut pas dire son nom. Mais je suis sûr et certain, le monde entier est témoin de ce que les politiciens maliens ils sont en train de faire au peuple malien. Ils sont en train de prendre les Maliens en otage. Ça fait plus d'un mois maintenant que Mali n'a pas de gouvernement. Or que la CEDEAO et même le président Ibrahim Boubacar Keïta, il avait dit qu'il veut créer un gouvernement d'union nationale large pour sortir le Mali dans l'état qu'il se trouve. Donc vraiment, il faut qu'on se dise la vérité. Les politiciens, les oppositions, ils sont en train de faire quelque chose qui ne va pas vraiment dans le sens de la démocratie. Vive la démocratie malienne, je vous remercie.
Salut Stéphanie et salut à toute la famille de Africa Radio. Et moi c'est Chalet, je suis un Bidinois. Je viens juste d'écouter l'émission de Francis Laloupo et le grand débat et sur la situation qui se passe chez nous au Bénin. Eh bien, c'est ahurissant. Et on se demande comment nous en sommes arrivés à ce point où les Béninois sont traqués par les dirigeants béninois. Notre pays, qui autrement était considéré comme l'un des meilleurs pays en Afrique en matière de démocratie, est devenu la risée du monde entier. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, qu'on accorde l'asile politique à des Béninois. Ça, c'est une situation qu'on n'avait pas connue il y a des lustres. Alors que ceux qui sont au pouvoir continuent à se bomber le torse et à croire qu'ils sont en train de faire un bon boulot. Eh bien, ça, ce n'est pas Béninois. Ça ne nous ressemble pas du tout. Et le silence de la population n'est pas du tout. Un oui ou un chef blanc accordé à ce gouvernement. Alors, ben, il n'est pas en contact avec la règle.
Madame Hartmann, bonjour. Bonjour tous les auditeurs de la radio africaine. Deux petites remarques comme ça en passant sur le nouveau gouvernement de la France. Avec l'arrivée au gouvernement de plusieurs proches de Nicolas Sarkozy, c'est le dégagisme qui vient d'être balayé. Il faudra surveiller l'évolution de tous les procès où M. Sarkozy est poursuivi et même condamné en première instance et en appel. Deuxième remarque, on sait que Sarkozy déteste et en veut à M. François Bayrou. Bayrou et son modem sont la deuxième chambre de la majorité présidentielle actuelle. L'arrivée en force des proches de Sarkozy fait du gouvernement un mariage entre chien et chat. Ça promet, non? Allez, bonne journée à tous. Wait and see ou wait and fight. Merci de m'avoir écouté.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui, dans le JDA, le point sur l'épidémie de Covid-19. Pour intervenir en direct, appelez-nous. Le numéro à composer depuis la France est 01 55 07 58 00 et depuis partout ailleurs dans le monde, notamment depuis Abidjan, vous nous écoutez sur le 91.1 FM, composez le 33 1 55 07 58 00 pour intervenir en direct dans l'émission. Si la pandémie est arrivée plus tardivement qu'ailleurs sur le continent africain, la contagion, qu'on ait une rapide accélération, mais le pic n'est pas encore atteint, selon des spécialistes. Alors a-t-on déconfiné trop tôt ? Faut-il rester vigilant quant à l'épidémie ? On ouvre le débat avec Alassane. Alassane, bonjour.
Bonjour, bonjour Stéphanie.
Bonjour Alassane. Alors, est-ce que selon vous, les mesures, notamment sur le continent africain, je pense au Bénin ou même peut-être à la Côte d'Ivoire, de déconfinement, de levées des restrictions sont intervenues trop tôt ?
Bien sûr, sont intervenues très tôt, bien sûr. Le Sénégal aussi, le Sénégal aussi pareil. Voilà, c'est Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est pareil. Quand la France, au début, quand la France avait mis le confinement en place, directement ils ont fait des couvre-feux, confinement en Afrique, alors qu'ils avaient même pas atteint 100 cas. Aujourd'hui, on est à 1000 et quelques par pays et le déconfinement, c'est parce que en fait la France a déconfiné, c'est tout. C'est pas
Est-ce qu'on assiste au Sénégal à une recrudescence des contagions depuis que les mesures ont été levées ?
Non, mais Macky Sall, c'est un capitaine qui a quitté le navire. Macky Sall, ce gars-là, on n'a jamais eu
aussi nul de notre histoire. On n'a jamais eu de... Mais on n'avait pas atteint 100 cas. Il avait couvre-feu, les policiers sortaient partout, les gens... Voilà, tout le monde était enfermé. Maintenant, on est à combien de cas
7478 cas au Sénégal.
Voilà, il parle de déconfinement. Il déconfine, les écoles doivent s'ouvrir, parce que la France a fait ça. En fait, c'est que ça soit Macky Sall, Ouattara, le président du Bénin, tous ces francophones-là, présidents des pays francophones-là, ça veut dire qu'ils sont élus par leur population, par les peuples africains, mais ils se considèrent comme des sous-préfets. Ce n'est pas des dirigeants, ces gens-là. Ce n'est pas des hommes d'État qu'on a en Afrique. Et Stéphanie, en fait, le coronavirus, c'est un échec total de l'Afrique, même de l'Europe. Hein. L'Europe qui se croit puissant, mais il est vulnérable.
Alors justement, vous en parlez un peu au passé, mon cher Alassane. Pour autant, est-ce que la crise est derrière nous? Je pense non. Au niveau mondial. Hein.
Non, elle n'est pas derrière nous. Elle n'est pas derrière nous. Hein. Elle n'est pas derrière nous. Hein. On n'a pas fini avec ce coronavirus. Hein. Celui-là, c'est la couronne des virus. On n'a pas fini avec ça. Hein. On n'a pas fini avec ça. Hein. Non, il n'y a que l'Asie qui a réussi. Qui a réussi à faire quelque chose. Parce que, bon, certes, on les critique parce que ce n'est pas des démocrates ou choses comme ça, mais on s'en fout. Voilà, ils arrivent à s'en sortir. Mais en Europe, ça a été une catastrophe totale. Le système de santé français a été vanté pendant combien de siècles? Voilà, mais tu as vu ce qui s'est passé en France? Tu as vu ce qui s'est passé en Italie, qui est le premier pays européen producteur de médicaments? Voilà, cela veut dire que même ces pays-là sont vulnérables.
Pour vous, oui, alors si j'ai bien compris, Alassane, pour vous, qu'on soit en France, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, la crise a été mal gérée, hein, et mal gérée par les gouvernants.
Elle a été mal gérée partout. Il n'y a que l'Asie qui a réussi à s'en sortir. Il n'y a que les pays asiatiques qui ont réussi parce qu'il y a des États, il y a une autorité là-bas en Asie, dans les pays asiatiques. Il y a des autorités là-bas. Mais en Europe, avec leur liberté, mais attends, c'est une catastrophe. En Amérique latine aussi, c'est une catastrophe. C'est un échec total. C'est un échec total. Maintenant, tu sais, Stéphanie aussi, il y a une chose à prendre en compte. Il y a Donald Trump qui pointe du doigt l'Organisation mondiale de la santé. Eux aussi, on doit les auditer parce que ça ne va pas. Ça ne va pas.
Qu'est-ce que vous reprochez à l'OMS? L'OMS qui était alerte, hein. Le directeur de l'OMS avait, au début de la crise, dit « Je crains le pire pour l'Afrique ».
Ils ont eu du retard. Ils ont eu du retard sur leur alerte. Ils ont eu du retard sur leur alerte. Et puis l'OMS nous parlait des millions de morts en Afrique. Il faisait partie de ceux qui criaient « Ah, l'Afrique !» Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas en Afrique? Est-ce que c'est le cas? Donc la crise a été mal gérée en Afrique. Est-ce que c'est le cas? Pour te dire que toutes ces organisations internationales, c'est à revoir. C'est à revoir.
On a vu aussi les États-Unis, hein, qui étaient l'un des pays le plus touché. On se souvient, Alassane, hein, que Donald Trump, hein, voilà, ne porte pas de masque en public. Il avait, voilà, n'a pas imposé un confinement généralisé. Est-ce que ça a joué sur la progression de l'épidémie, selon vous, aux États-Unis?
Bien sûr. Mais que ça soit Donald Trump, le président brésilien, ils ont le même système. C'est les nationalistes. C'est pareil que le Front National. Ils n'ont pas de politique, ils n'ont pas de proposition. Voilà, ils respectent eux contre Donald Trump. C'est tout à fait normal que les États-Unis se trouvent dans cette situation. Hein. Ils l'ont voulu. Hein. C'est normal qu'ils se trouvent dans cette situation. Et c'est pareil pour lui, c'est pareil pour comme le président brésilien qui dit c'est tout juste un grippe sévère ou un petit grippe qu'il avait dit. Regarde ce qui se passe dans ces pays-là aujourd'hui. Mais parce que c'est des dirigeants, ils en ont rien, c'est des dirigeants qui n'ont rien à foutre de la population. Voilà, ils pensent qu'à l'économie. Voilà, c'est
aussi l'équation, hein, de nombreux pays. Merci beaucoup, Alassane, hein, d'avoir ouvert ce débat.
Stéphanie,
oui, Alassane.
Aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus un exemple en matière de démocratie, en matière de droits de l'homme, en matière de protection humaine. Les États-Unis ne sont plus ils sont plus des exemples.
C'est très clair. C'est la chute de l'Empire américain.
On dirait qu'ils reculent. Au lieu d'avancer, ils reculent. Voilà, c'est C'est catastrophique.
Merci beaucoup, Alassane, d'avoir ouvert le débat. Alassane, qui pense que voilà, la gestion de cette crise a été catastrophique. Hein, c'était le mot. Merci beaucoup, Alassane, d'avoir ouvert le débat. Dans un instant, on va écouter Lassana. Et Yves, n'hésitez pas, appelez-nous. L'antenne est à vous. 33 1 55 07 58 00. Il y a Archédic Théodore de Djamena qui dit sur Facebook « L'Afrique a résisté à ce virus qui fait des ravages et a fait échouer les prévisions de l'OMS. Le déconfinement n'a pas marché car les dirigeants africains sont incapables de prendre en charge les besoins des premières nécessités. » Il parle du confinement plutôt d'ailleurs. « Eau, électricité et nourriture des populations confinées. » C'est un déconfinement très tôt qu'on est obligé de vivre avec ce virus. Et Foka, qui doit également être du côté du Tchad, il nous dit « Le danger peut être écarté si chaque citoyen comprend la nécessité de se débarrasser de cette pandémie. » Il dit « Au Tchad, les mesures de restriction sont presque relaxées, mais d'autres comportements sont déplorables. » Ce n'était pas ce message que je pensais. Il y a un autre message qui disait que voilà, face aux mesures aussi de restriction, s'impose également la nécessité de relancer l'économie. Lassana, bonjour.
Allô, bonjour Stéphanie.
Bonjour Lassana, bienvenue dans le journal des auditeurs.
Ouais, merci.
Vous pensez, merci, vous, Stéphanie. C'est mal géré aussi.
Ouais, non, c'est pas mal géré, Stéphanie. Tu connais mon frère frappé là, quoi. Tu
vois,
mon
frère parlé. La vérité. Oui. Tout à fait. Oui.
Voilà, parce que moi, dès que je t'avais dit, j'ai pas dit que c'est pas en Europe, mais en Afrique, c'est faux, Fati Stéphanie. Il n'y a pas virus en Afrique.
Bah, il y en a quand même, voilà. Mon cher Lassana.
Non, c'est faux. C'est,
ah bon,
Stéphanie, parce que c'est 10 Africains qui sont en train de ramener, comme quoi, si Europe qui par rapport au Ibeka, là, bientôt il va dégager. Par rapport
je me demandais à quel moment vous allez me dire, Lassana, que c'était de la faute d'Ibeka. Lassana, c'est un peu confus, mais j'entends bien. Alors bon, je vais quand même donner les chiffres, Lassana, et merci de votre intervention, mon cher Lassana. L'Afrique a compté le 6 juillet dernier, donc c'était hier, 477 497 cas de coronavirus confirmés. Sur le continent africain, le virus a déjà coûté la vie à plus de 11 000 personnes, 11 371 personnes. Il faut savoir que ce chiffre atteint 50 000 pour les États-Unis. Donc voilà, faut-il relativiser aussi ce nombre de décès. Alors parmi les pays les plus touchés par la pandémie, il y a l'Afrique du Sud en tête, où le nombre des cas explose. Ils sont à 3 200 décès, environ un peu moins de 200 000 cas. L'Égypte aussi, 75 000 cas et plus de 3 300 décès. Le Nigeria est très touché. D'ailleurs, les personnels de santé se sont mis en grève pour protester contre l'absence de mesures et de matériel. Et ils doutent parfois des chiffres donnés officiels, des données officielles. Et selon les données officielles, donc au Nigeria, il y a 28 167 cas, dont 634 décès. Voilà, parmi les plus touchés, pays les plus touchés, s'en suit le Ghana, l'Algérie, le Cameroun qui a près de 13 000 cas, et le Maroc. 33 1 55 07 58 00. Yves, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Yves, bienvenue dans le JDA. Est-ce qu'on a déconfiné trop tôt dans certains pays ?
Pour moi, on a déconfiné, oui, sauf trop tôt, mais aussi c'est une nécessité économique qui demande aussi qu'on déconfine. Mmh. Mais au-delà du déconfinement qui soit trop tôt ou précipité pour certains, comme ils le disent, le problème est que les populations oublie que le virus est toujours présent. Donc les gens font comme si le virus était parti, le fait qu'on est déconfiné, aussi, on peut tout faire. Et c'est aussi un problème, c'est une mauvaise gestion, parce qu'en ce moment, il y a des élections un peu partout. Les politiques se permettent aussi de faire campagne, alors qu'on est en pleine crise sanitaire. Donc, quelque part, on se dit finalement, on a les dirigeants qu'on mérite, parce que finalement, ces dirigeants, ils sortent où ? D'une population indisciplinée. On a des dirigeants indisciplinés, et voilà le résultat. On avait 100 cas, une centaine de cas pratiquement en Côte d'Ivoire, on avait confiné, maintenant on en a plus, et on déconfine. Voilà.
J'étais en train de... Ah si, je l'ai, le nombre de cas de la Côte d'Ivoire. Il y a 10 996 cas et 75 morts en Côte d'Ivoire. Un petit mot, regard, Yves, vous êtes le premier à qui je pose la question, mais vous ne serez pas le dernier. Un petit regard sur Madagascar. À Madagascar, la capitale, Antananarivo, a de nouveau été placé en confinement en raison d'un regain de propagation. Est-ce que ça signifie que finalement le remède hein, présenté comme un miracle, hein, le Covid organique, ça ne fonctionne pas tant que ça?
Ben, on le voit bien. Si ça fonctionnait aujourd'hui, je pense que on aurait eu une éradication du Covid, de la Covid à Madagascar, ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on reconfine. C'est aussi les idées reçues qu'on peut avoir de certains produits miracles. Et encore aussi ce déni de certains Africains disant il n'y a pas de virus. Le virus, il est là. Et encore, on a beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, je pense que même la comptabilité qu'on fait aujourd'hui n'est pas l'exactitude du terrain. Parce que si on testait massivement, on se rendrait bien compte qu'on est bien au-delà des chiffres annoncés.
Beaucoup plus de contamination. Et respecter les gestes barrières, hein, vous dites, Yves, voilà, continuer.
Aujourd'hui, c'est de respecter les gestes barrières. Je pense que c'est aussi un problème d'éducation aussi, hein, qui montre encore les limites de l'Afrique face à des problèmes assez sérieux. L'État ne peut pas tout faire et chacun doit prendre quand même une part de responsabilité dans ce qui se passe.
Merci beaucoup Yves hein, d'avoir contribué hein, à ce débat. Je ne suis pas sûre que l'indiscipline hein, soit propre hein, à certains pays africains. Cependant, on a bien compris hein, que vous appelez aux gens hein, malgré les déconfinements. Voilà, c'est vrai que c'est ce que disait Yves. Hein, voilà, on déconfine, du coup on a l'impression que l'épidémie est finie derrière. Les gens recommencent à s'embrasser, se toucher, sont peut-être moins vigilants. Alors on va rappeler hein, quelques gestes barrières. On ne s'embrasse pas, on se lave les mains régulièrement. On porte un masque aussi. Aussi, hein, dans des endroits confinés, c'est-à-dire quand on est dans des endroits fermés. Merci beaucoup Yves, 33 1 55 07 58 0 0. Je le disais hein, au 4 juillet, hein, combien il faut préciser que l'Afrique est quand même relativement épargnée, comparé par exemple comme les États-Unis qui comptent hein, 2,8 millions de cas. Alors je parlais de 50 000, mais on est maintenant aux États-Unis à 131 732 décès. Le Brésil hein, est également très touché avec 1 600 000 de personnes positives, plus de 64 000 décès, devant la Russie aussi qui compte hein, 10 000 décès. L'Inde est également très touchée, sans oublier aussi les pays hein, d'Amérique latine et d'Amérique du Sud comme le Pérou et le Mexique. Abou Bakari, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie.
Bonjour Monsieur Abou Bakari. Vous dites qu'il fallait déconfiner de toute façon, mais il aurait fallu, on n'a pas assez communiqué, c'est ce que vous dites.
Oui, pas exactement.
Vous pensez à la Côte d'Ivoire précisément, non?
Voilà, mais au fait, le déconfinement n'a pas été trop mauvais. Ouais, mais déconfiner, je vais dire au moment qu'il fallait. Parce que, vous savez, la population africaine, la plus grande, 70% ou 80% de la population vit de jour en jour. Hein. Voilà. Donc, mais c'est simplement, il y a eu un mauvais message de la part des compatriotes qui se trouvent un peu partout, aux États-Unis, en Europe et un peu partout. Et surtout, j'allais dire, les cyber-activistes. Mais vous-même, vous voyez le raisonnement de mon compatriote, de mon frère malien qui vient de passer.
La Sana qui disait finalement, ça n'existe pas. Oui, il y a une espèce
voilà,
de.
On fait toujours des parallèles avec les politiciens. Vous voyez, par exemple, moi j'ai pris des exemples 6 mois directement. Moi, j'ai été obligé d'aller en bras de fer avec ma propre soeur pour qu'elle puisse porter des masques. Elle me dit non, mais on a vu, on nous dit, c'est les réseaux sociaux que les masques sont empoisonnés. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire.
Elle est Abidjan, votre sœur, pardon.
Elle est Abidjan. D'accord. Il y a une Ivoirienne qui vit aux États-Unis, qui a mis un truc sur l'Internet, comme quoi qu'elle est infirmière aux États-Unis. Ils veulent envoyer des masques en Afrique. Les masques sont empoisonnés, il ne faut pas qu'ils mettent. Ben, tu vois, quand il y a des messages comme ça, parce que, pourquoi je le dis? Par exemple, le Malien qui vient de passer, au fond de son village, il y a des personnes qui croient en lui comme le bon Dieu. Parce que lui, en Europe, tout ce qu'il dit, il est incroyable à ça. Oh, c'est un mauvais message comme ça, ce sont des mauvais messages comme ça qu'on fait passer. Et les gens qui sont en Afrique, voilà, ils ne croient pas au virus, ils se laissent aller un peu.
Et beaucoup d'intox, hein, c'est ce que vous dites, voilà, hein, de fausses informations, hein, des fake news.
Il y a trop d'intox. Aujourd'hui, je le dis honnêtement, hein, et surtout, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, les cyberactivistes sont responsables, pour moi, à 85%. De ce qui se passe actuellement, les cas qui sont en train de partir, ils sont responsables. Hein. Parce qu'au fait, aujourd'hui, comme je le disais la dernière fois, je me suis énervé un peu, si mon compatriote qui est passé un peu. On fait trop de trucs parallèles, en fait. On résume les trucs à rien, en fait. Et parce que telle personne au pouvoir, donc s'il y a un truc qui arrive, c'est dans son mandat, ça arrive. Mais c'est un virus, ça peut prendre n'importe qui. Donc je veux que les messages qui sont propres.
Vous dites, faut pas politiser l'épidémie, voilà. Si je comprends bien, voilà, c'est ça.
Merci pour le mot, faut pas politiser. Mais on fait toujours, on essaie de politiser. Voilà, l'autre, il veut dire, voilà, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Il faut envoyer des bons messages pour que les gens prennent les mesures barrières. Il faut envoyer des bons messages pour que les gens se protègent. C'est ce qui peut nous arranger, sinon les deux confinements, d'un moment à l'autre, il fallait le faire. Il fallait le faire. Parce que vous voyez, comment on appelle, les dons même qui sont faits en Afrique, les hommes riches donnent aux hommes qui sont un peu plus bas de faire des dons, mais tout repasse sur les marchés. Les pauvres, ceux qui sont en bas de l'échelle, ils n'ont rien, ils n'ont absolument rien
bien sûr.
À se mettre sur les dents. Donc c'est compliqué, il fallait déconfiner. Mais j'en profite de l'occasion, appeler tous mes compatriotes, que ce soit maliens, ivoiriens, congolais, envoyer des bons messages, ceux qui sont surtout en Europe et aux États-Unis. Parce que les gens vous écoutent beaucoup en Afrique. Votre avis compte beaucoup. Et essayer d'envoyer des messages qui sont...
À se méfier, on le répète assez, merci à Aboubakari, on le répète suffisamment, on essaye en tout cas sur cette antenne se méfier de toutes les informations que vous voyez circuler sur Internet. Il y a 2-3 trucs très simples à faire, il suffit de vérifier le site sur lequel il était publié, de voir si l'article est signé, de regarder l'orthographe. Voilà, s'il y a un article avec plein de fautes d'orthographe, vous avez une grande chance que ce soit une fausse information. Merci Aboubakari. On va écouter Georges et Abdel dans quelques instants. J'ai retrouvé le message dont je parlais tout à l'heure. C'est Douté Dominique qui nous dit « Quand les barons de l'Organisation de la Santé ont prédit le Covid-19 devait causer une rage, tout Africain était mécontent et avançait des injures à l'OMS. Mais maintenant, à cause de la soif du pouvoir dans plusieurs pays, comme mon pays, le Ghana, les politiciens ont oublié l'importance de l'être humain. Ils promulguent des lois qui autorisent aux citoyens de sortir pour s'enregistrer pour leurs cartes d'électeurs, alors que les églises, les marchés, les écoles sont fermées. L'OMS avait bien raison, dit Douté Dominique. Et puis c'est tout. On va, Georges, bonjour.
Ouais, bonjour Stéphanie.
Bonjour Georges, depuis le Royaume-Uni, je crois.
Ouais, depuis Londres, ouais, c'est ça, exactement.
Bienvenue Georges, merci de votre écoute et de votre appel. Pour vous, le déconfinement était nécessaire
Ouais, c'était nécessaire, surtout comparativement à l'économie, surtout en Afrique, parce que comparativement aux Européens, c'est différent. Quand en Afrique, il fallait qu'il y ait des déconfinements, mais il faudrait que l'éducation continue toujours d'émerger et que le gouvernement essaie pas... Plusieurs temps aussi, il y avait eu des élections, parce que je n'ai pas compris que ce soit en Guinée, au Bénin,
au Mali,
et puis on dirait en Côte d'Ivoire, il y avait eu des élections, mais des trucs communaux, et que j'ai trouvé ça un peu bizarre. Parce qu'en Angleterre, si par exemple, à Londres, vous savez, l'Angleterre n'est pas l'exemple, quoi, mais au niveau des élections, on devait avoir élection de maire en mai passé. Mais compte tenu de la pandémie, ils ont prolongé cela l'année prochaine.
Reporté,
donc j'ai pensé que les pays africains auraient pu voir cela et puis ne pas, parce qu'il y avait la pandémie. Au milieu de la pandémie, il y avait eu des élections, c'était un peu mauvais. Par exemple, au Ghana, par exemple, le gouvernement avait mis des dispositions en place tellement que vraiment c'était. Parce que quand on voit, on a pensé que l'OMS même avait...
Vous êtes du Ghana ? Vous êtes originaire du Ghana, Georges ?
Oui, je suis originaire du Ghana, mais né en Angleterre.
D'accord.
Donc,
allez-y, mais est-ce que vous avez entendu, là, c'était justement Douté Dominique qui parlait du Ghana en disant, voilà, le Ghana avait pris des dispositions, mais bon, quand il a fallu faire des élections et aller s'enregistrer, ils ont fait fi de toutes ces restrictions.
Justement, il y a ça aussi, mais à côté de cela, mais le gouvernement continue toujours de mobiliser la population pour que les gens essaient de... Parce que moi, je suis tout le temps en contact avec mes cousins, cousines, même j'ai une grande soeur au Ghana, je suis toujours en contact avec elle. Donc, on parle toujours de l'actualité au Ghana. Le gouvernement toujours essaie de mettre les points sur les mesures. Même à l'église, il y a les églises qui sont ouvertes, même à l'intérieur de l'église, les prêtres, les évêques même, ils mettent des masques. Et à chaque fois, avant de rentrer quelque part, il y a lavage de mains et puis, comment vous appelez
masque, non ?
Masque, tout ça là, et puis il prend la température des
D'accord.
gens. Donc, il y a des mesures en place. Donc, je ne pense pas que c'est un problème en tant que tel. Mais il faudrait, ce que je voulais encore souligner, c'est qu'il faudrait qu'on donne du crédit aux pays africains. Par exemple, en Angleterre, vous savez, notre gouvernement, le gouvernement conservateur ici, c'était du désordre. C'était du désordre. Ils n'ont rien fait. Et puis là, maintenant, hier, ils veulent accuser même les gens de la maison de retraite, les employés de la maison de retraite, parce que c'est les étrangers qui travaillent dans les maisons de retraite, là.
Comme d'accord.
Là, ouais. Le premier ministre, il est parti faire une allocution bizarre envers ceux-là, que c'est à cause d'eux qu'il y a eu de morts. Alors que c'est à cause de son gouvernement, ils étaient en mesure d'apprêter ce qu'il faut, les équipements. Ils étaient, même pour le confinement, ils étaient en retard. Et tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre les gens en condition, ils n'étaient pas prêts. Donc, ce qui a fait qu'au niveau de l'ethnie, de la minorité, il y a eu beaucoup de morts. Mm. Il y a eu beaucoup de morts. Et actuellement aussi, au niveau des écoles, au début, au lieu de s'arranger avec les syndicats, le gouvernement anglais, ils sont arrivés avec une décision pour dire que les enfants n'ont qu'à arriver à l'école. Et puis du coup, ils ont constaté que c'était une erreur. Et là, maintenant, ils disent qu'au lieu de vouloir implémenter distanciation sociale dans les écoles, à partir de septembre, ce ne sera plus le cas. Quand les parents ont peur, les gens disent, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que le gouvernement, ce que nous appelons herd immunity, je ne sais pas comment ça se dit en français, il y a cette politique-là que le gouvernement veut adopter.
De l'immunité, oui, mais on a vu ça d'ailleurs, et je vous remercie Georges, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, mais effectivement, vous l'avez bien décrit au début, le Royaume-Uni n'a pas pris cette épidémie au sérieux, en tout cas s'est refusé à prendre des mesures de confinement avant de faire un rétro pédalage. Et puis vous l'avez dit aussi, il se trouve qu'un peu partout dans le monde, c'était le cas en France, en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis, aux États-Unis, et vous venez de le dire pour les minorités en Angleterre, voilà, ce sont les minorités, souvent les populations noires, qui sont aussi le plus touchées. Puis pour finir, Georges évoquait le Ghana, il faut quand même le dire, Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, s'est mis en quatorzaine, à l'isolement depuis le 4 juillet par précaution. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. Je m'excuse auprès d'Abdel et d'Amadou de Grenoble qu'on n'a pas eu le temps de prendre. Je vous invite, messieurs, à laisser un message sur le répondeur ou alors à continuer le débat sur notre page Facebook. Laissez quelques-uns des commentaires. La page, c'est facebook.com/journal des auditeurs. Merci beaucoup par ailleurs à Edouard Ning qui réceptionne chaque jour vos appels. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Journal des auditeurs. Je vous propose de réagir demain à l'éventuelle candidature de KKB en Côte d'Ivoire. Va-t-on vers une candidature dissidente du PDCI? N'hésitez pas à vous inscrire en laissant un message sur le répondeur 33 1 55 07 58 05. À demain.